Le monde au féminin.
Hey you, over there, please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En République démocratique du Congo, trois hommes accusés d'avoir violé deux infirmières dans un centre de santé ont été condamnés à 20 ans de prison à Kinshasa le 16 septembre 2020. Deux prévenus ont été acquittés et trois autres renvoyés devant un tribunal pour enfants. Dans la nuit du 10 au 11, des individus armés de machettes ont fait irruption à l'hôpital Révolution de Kisenso et ont violé les deux infirmières sous le regard des malades qu'ils ont dépouillés. Le procès en procédure de flagrant délit devant le tribunal de grande instance de Matete a débuté trois jours après les faits. Le 21 août 2020, quatre militaires camerounais ont été condamnés à 10 ans de prison ferme et un autre à 2 ans pour l'assassinat en 2015 de deux femmes et de leurs enfants à Zélevette dans le nord du pays. En juillet 2018, une vidéo montrant des soldats exécutant ces jeunes femmes, une petite fille et un bébé, avait circulé sur les réseaux sociaux. Siri Akiler Bitlaya, Jean Tchanga et Barnabas Donosu ont été reconnus coupables de coaction d'assassinat. Le capitaine Étienne Fabassou, chef des accusés au moment des faits, a également été condamné à 10 ans de prison. En France, une étudiante a déposé plainte à Strasbourg le 20 septembre 2020 pour avoir été frappée et insultée dans la rue par trois jeunes au motif qu'elle portait une jupe. Une enquête a été ouverte pour violence commise en réunion. Après l'avoir insultée, deux des agresseurs l'ont immobilisée et le troisième l'a alors frappée d'un coup de poing au visage, a relaté la victime, affirmant qu'une quinzaine de personnes ont assisté à la scène sans intervenir ou appeler les secours. Quelques jours après cet incident, un jeune de 18 ans a été placé en garde à vue à Mulhouse pour avoir agressé deux jeunes femmes également au motif que l'une d'elles portait une jupe. Pour cet incident, un témoin a prévenu la police qui a interpellé l'agresseur. En Chine, les recommandations à connotation sexiste de l'université du Guangxi à Nanning suscitent de vives réactions en ligne. Ne portez pas de jupe et de vêtements suggestifs afin de ne pas éveiller la tentation, peut-on lire sur le document. Ces recommandations visant essentiellement la gente féminine ont provoqué un tollé sur le réseau social Weibo avec plus de 210 millions de vues. Environ trois semaines plus tard, l'école chinoise des beaux-arts de Hangzhou a également provoqué un tollé avec le même type de manuel supposé donner des conseils en matière de sécurité personnelle, expliquant les agressions sexuelles des femmes par le fait qu'elles sont jolies, frivoles ou faibles.
paroles de femmes.
Nombreux ont été les jeunes et les féministes américaines à rendre hommage à la juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre 2020 d'un cancer du pancréas. Elle fut la seconde femme à entrer à la Cour suprême quand le président Bill Clinton l'a nommée en 1993 et où elle siégera pendant 27 ans. Madame Ginsburg avait été snobée par les cabinets d'avocats new-yorkais quand elle est sortie en 1959 de l'Université Columbia. Elle s'est alors engagée dans la lutte contre les discriminations basées sur le genre au sein même de la loi. La dépouille de Ruth Bader Ginsburg a été exposée à la Cour suprême puis au Capitole avant l'inhumation au cimetière national d'Arlington, près de Washington. À la veille de la rentrée parlementaire, la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Jeanine Mabunda, a dénoncé le 14 septembre 2020 des propos sexistes attribués à un partisan de l'UDPS, parti du président Félix Tshisekedi. Peut-on se déclarer ressortissante de l'Équateur et être mince et élancée comme la sœur de Paul Kagame, a déclaré cet homme dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Les Congolais ne sont pas filiformes. Moi-même, je suis mince, mais j'ai de la chair derrière, ajoute l'homme, montrant ses fesses à la foule en liesse devant le siège de l'UDPS à Kinshasa. À travers moi, ce sont toutes les femmes que l'on atteint, s'est insurgée Madame Mabunda. Au Togo, de nombreuses femmes travaillent dans le secteur des services, notamment le tourisme, ainsi que dans celui de l'artisanat, bien sûr, deux domaines professionnels qui peuvent être liés sur plusieurs aspects. Notre correspondante à Lomé a rencontré des femmes exerçant ces métiers sérieusement impactées par la pandémie de Covid-19. Loin d'être pessimistes, ces entrepreneuses mènent des réflexions pour rester compétitives en attendant des jours meilleurs. Le reportage de Kay Lawson.
Tout le monde est unanime à reconnaître que le secteur touristique est le plus touché par la pandémie de Covid-19. A expressé à Holding, une agence togolaise de voyage et de tourisme, la COVID a sérieusement frappé. Onna Mienso, directrice de Expressia Holding.
Nos activités ont été arrêtées courant mars. La dernière vente que j'ai faite au cours du mois de mars, c'est le 10 mars. Et c'est tout. Il n'y avait pas moyen de voyager. Donc notre entreprise a été réellement touchée jusqu'en août où on a réouvert l'aéroport international de Lomé. Du coup, cette année, on ne parle même plus de chiffre d'affaires. On est juste dans la survie.
L'herbe n'est pas non plus verte dans le secteur de l'artisanat, surtout pour des artisans qui misent sur les grandes conférences et événements internationaux. C'est le cas de Lenina Kodjo, créatrice de la marque à Joasika Namaou.
Nous sommes dans un secteur d'artisanat, donc très porté sur l'exportation. Nous faisons nos chiffres d'affaires essentiellement sur les événements foires internationales, etc. Et vu que les frontières sont fermées, donc il y a un pan entier du marché qui s'est fermé aussi, on se rabat sur le marché local. Et ce n'est pas forcément évident.
Pourtant, dans le secteur touristique, il se murmure que c'est du marché local que viendrait le salut. À Expressia Holding, les réflexions sont beaucoup plus tournées vers le tourisme local. Anna Mienso, directrice de cette agence.
Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de clients qui viennent de l'extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur, ils peinent aussi à partir. Donc, on essaie de voir si on ne peut pas développer un tourisme de proximité. Notre challenge est de dénicher des endroits vraiment magnifiques et de les proposer aux Togolais.
Pour la créatrice Lénina, la collaboration entre les artisans pourrait être la porte de sortie.
Pour nous en sortir pendant cette crise, il est très impératif de se mettre ensemble. La collaboration entre plusieurs artisans est absolument de mise. Je pense que nous sommes entre griffes tenus de nous renforcer mutuellement pour pouvoir faire face à toutes ces crises qui sont en latence, pas seulement sanitaires mais économiques.
Que ce soit pour Anna Mienso ou Lénina Kodjo, l'heure n'est pas à regarder dans le rétroviseur. Elles se focalisent sur le futur avec des idées les unes plus innovantes que les autres pour prendre leur revanche sur la pandémie de COVID-19 qui a failli les mettre en faillite.
Nous sommes très optimistes. Très optimiste. On ne peut que l'être aujourd'hui. Soit on décide de s'arrêter ou on décide d'avancer. Donc nous avons décidé d'avancer.
Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Après avoir blâmé la victime d'un viol, le chef de la police de Lahore au Pakistan a présenté ses excuses. Oumar Cheikh avait suggéré que le viol était la faute de la victime, qui a été menacée d'un pistolet et violée par au moins deux hommes devant ses enfants, après avoir demandé de l'aide pour une panne de voiture. Personne au Pakistan ne permettrait à ses filles et ses sœurs de voyager seules aussi tard, avait-il déclaré, ajoutant qu'elle avait fait ça en se basant sur la France où est sa famille. Ses propos avaient provoqué des manifestations dans plusieurs villes. Par ailleurs, le Premier ministre Imran Khan s'est prononcé pour la pendaison publique des violeurs avant de se retrancher sur la castration chimique, qui n'est pas une peine mais un traitement administré aux criminels sexuels à leur sortie de prison dans certains pays.
Si je ne pouvais.
Au Nigeria, la Cour suprême a confirmé fin août 2020 le droit des filles à hériter des biens de leur père. Cette décision vient réformer une tradition patriarcale bien ancrée dans plusieurs groupes ethniques qui ne réservent l'héritage qu'aux hommes. Les militants des droits humains saluent ici une avancée pour l'égalité des genres. Un reportage de Timothée Obiezu à Abuja, relaté par Michel Joseph.
Nkiruka Ani est issue d'une famille polygame du sud-est du Nigeria. Sa mère est la deuxième de trois épouses et son seul frère, et héritier des biens familiaux, est décédé au début de cette année. En mars, Nkiruka Ani et sa mère ont été exclus du partage des biens de sa famille suivant la coutume Igbo interdisant aux femmes l'héritage familial. Pour survivre, Ani se débrouille comme elle peut au marché.
Nous sommes tous des humains. Tout ce qu'ils donnent aux hommes, ils devraient le donner aussi aux femmes. Nous sommes égaux. Mais je ne connais pas leur propre logique. Je ne comprends pas.
La pratique séculaire qui déshérite les femmes est basée sur l'idée qu'une fille se mariera un jour et quittera la maison pour aller vivre avec sa nouvelle famille. Au fil des ans, de nombreuses femmes, comme Annie, se sont vues refuser l'argent et la propriété dans les partages d'héritage. la Cour suprême nigériane, dans un jugement historique, a annulé cette tradition et l'a qualifiée de discriminatoire et de contraire à la Constitution. Militant pour l'égalité des sexes, Solomon Bucci a célébré cette décision.
Nous devons constamment peser la culture à l'échelle de l'objectivité, de l'équité, de la justice et de l'égalité. Est-ce juste? Est-ce équitable? Est-ce compatissant? Nous ne voulons pas qualifier ou nous n'allons pas être fiers d'une culture qui déshumanise.
À Abuja, le président du Conseil des dirigeants traditionnels, Igbo, Ezoido Uche Egenti se plie à la décision de la Cour suprême.
La Cour suprême a pris la parole. Il est normal que vous et moi suivions les lois du pays. Et je me demande pourquoi c'est juste les Igbo, ce qui pourrait signifier que le Nord, le Sud ne pratiquent pas la même chose que nous.
Alors que certains prédisent une mise en œuvre difficile de la décision du tribunal, les militants pour l'égalité des sexes espèrent voir des progrès.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Le 3 septembre 2020, 8 femmes sont devenues juges de la Cour suprême du Koweït, une première dans l'histoire du pays. Après une longue bataille pour permettre aux femmes d'exercer cette profession, elles sont toutefois très minoritaires sur les 54 juges nommés. Le droit de vote ainsi que le droit pour les Koweïtiennes de se présenter à une élection leur a été accordé en 2005 seulement. Cette même année, Massouma Al-Moubarak a été première femme nommée ministre et 4 ans plus tard, des femmes ont pour la première fois été élues au Parlement.
Soit les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Au Tchad, les autorités du ministère en charge de la formation professionnelle, en collaboration avec des partenaires, veulent moderniser la vente de poissons frais. Pour ce faire, des groupes de vendeuses suivent des formations sur les techniques de conservation moderne et de commercialisation des produits de la mer. Un reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Au pays des grillades de viande de bœuf et de chameau, l'idée de moderniser la vente de poissons arrive au moment où la principale source de production, le lac Tchad, se déchaîne sous les effets du changement climatique. Il faut réorganiser le secteur en formant les vendeuses.
Auparavant, nous ne savons comment conserver nos poissons. Nos poissons sont restés seulement à l'air libre. Je crois que c'est une bonne chose pour nous, pour développer notre commerce.
Ils ont déjà construit les 2 marchés modernes, mais c'est mal construit. Est-ce qu'on a travaillé avec même depuis qu'ils ont fait ça?
On n'a pas matériel pour conserver parce qu'on n'a pas de congélateur. On expose le poisson au soleil. Parfois, les mouches viennent tenir le poisson et ça laisse des microbes. Quand les consommateurs viennent voir les mouches sur les poissons comme ça, ils n'ont pas envie d'acheter avec nous. Et parfois, la chaleur même nous rend malade et le poisson pourri rend aussi malade le consommateur.
Pour le conseiller technique du ministère en charge de la formation professionnelle et du petit métier, Badaï Kelkoussi, la réorganisation de ce secteur aura un impact économique puisque précise textiles, des kits mobiles pour une bonne conservation du poisson seront distribués à ces femmes.
Avec les chariots que les femmes vont avoir à la fin de la formation, comme on va leur aussi apprendre la notion de la commercialisation, elles peuvent être mobiles, ciblées des clients privilégiés par carré ou bien par recoin, qui à un moment donné même peut l'appeler directement « Madame, nous sommes en fête ou bien la famille a besoin de telle qualité de poisson bien conservée. »
Parmi les vendeuses de poissons, il y a des veuves et celles qui doivent nourrir et éduquer des enfants. Elles rencontrent toutes d'énormes difficultés. Fihil Agoui est la présidente de l'Union des organisations de femmes vendeuses de poissons du Tchad.
Au niveau de notre marché moderne de Viadjik, on nous a construit même la chambre froide pour conserver nos poissons. Mais ces chambres froides ne fonctionnent pas, faute de la capacité des groupes. On devait nous installer le groupe qui a 250 cabias, mais ils ont installé un groupe qui a 110 cabias. Depuis quand on nous a donné la clé de ce marché, 2016, les chambres froides ne fonctionnent pas.
Pour Badaï Gelkoussi, conseiller technique du ministère en charge de la formation professionnelle, les kits mobiles de conservation qui seront donnés à ces femmes seront une solution à ce problème.
Quand bien même son Excellence le Président de la République tape même sur la table pour dire qu'il faudrait qu'il y ait de l'électricité en permanence. Mais les efforts que les techniciens de la Société nationale d'électricité font, nous remarquons toujours que ce n'est pas toujours le souhait ou le vœu de la population dans son ensemble. C'est comme ça que ce kit-là, comme c'est un genre frigo mobile, ça pourrait aider nos femmes à nous vendre des poissons de meilleure qualité.
Le projet d'appui aux femmes vendeuses de poissons dans la ville de N'Djamena date de 2019. 100 vendeuses de poissons, dont 10 par arrondissement de la ville de N'Djamena, sont ciblées pour cette formation. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Le Togo a une première ministre depuis le 28 septembre 2020. Le président Fornia Singbe a nommé à ce poste Victoire Toméga Dokbe, première femme à diriger le gouvernement. Le décret a été lu par la secrétaire générale de la présidence, Ablamba Awefavi Johnson, nommée le même jour. Gestionnaire de formation, Madame Toméga Dokbe succède à Komi Selom Klassou, qui a remis sa démission 4 jours avant. Elle était directrice du cabinet présidentiel après avoir eu la charge des portefeuilles du développement, de l'artisanat et de la jeunesse dans le précédent gouvernement. Le 16 juillet de cette même année, le Gabon avait également nommé une femme à la tête de son gouvernement, Rose Christiane Osukaraponda, une première aussi dans l'histoire de ce pays. Les femmes premières ministres sont actuellement 3 en Afrique, avec la Namibienne Sarah Kugongalwa Amadila. Après de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, le ministère iranien de l'Éducation a annoncé mi-septembre 2020 que la couverture d'un manuel scolaire dont des petites filles ont été retirées de l'illustration serait modifiée l'année prochaine. L'illustration présente désormais 3 garçons sous un arbre en formule mathématique. Un acte de mauvais goût a été commis en retirant les filles, nous nous en excusons et le corrigerons, a déclaré le ministre de l'Éducation, Mohsen Hadji Mirzai. La figure la plus prestigieuse des mathématiques en Iran est une femme nommée Mariam Mirzakhani, et vous enlevez les filles de la couverture d'un manuel de maths, s'est exclamé un internaute. Décédée en 2017, Mirzakhani est la première femme à avoir reçu la médaille Fields. Certains parents ont partagé des photos de leurs enfants ayant peint les filles manquantes sur la couverture de leurs livres. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.